debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons-nous femmes esclaves et jouissons sans entrave.
Bonjour, vous êtes avec le collectif Debout, collectif féministe, nancéen et mixte. Comme chaque mois, on se retrouve donc pour une émission avec une green analyse féministe. Aujourd'hui, nous avons choisi le sujet de la libération sexuelle des femmes. Et nous sommes trois au micro pour en parler. Moi, c'est Maya,
Katia
et Alison.
Et tout de suite, on commence par la rubrique actualité. Alors, le collectif Debout est en lien avec la Marche mondiale des femmes, qui est un mouvement féministe international avec un grand rendez-vous tous les 5 ans. Et donc, cette année 2015, c'est le moment de la 4e action mondiale. Et donc, tous les 5 ans, il y a aussi un rendez-vous national. Il y a 5 ans, c'était à Montreuil. Et cette année, c'était à Nantes. Ça s'est passé le week-end dernier, des 5 et 6 juin. Et nous avons donc participé à l'agora féministe de la Marche mondiale des femmes avec des tables rondes, des stands associatifs, des rencontres, avec notamment la rencontre des femmes qui voyagent dans la caravane féministe européenne. Nous avons manifesté dans les rues de Nantes. Il y avait, lors de cette manifestation, beaucoup de Kurdes qui étaient présents pour dénoncer les attentats qui ont eu lieu durant le week-end. Il y avait également des soirées avec projections, vidéos, concerts, lectures et un One Woman Show qui était vraiment excellent. Alors, on a appris beaucoup de choses durant ce week-end, on vous en reparlera dans les prochaines émissions. Un rendez-vous féministe national, c'est l'occasion de se rencontrer, de s'informer, de débattre et de renforcer les solidarités, de faire le plein d'énergie féministe. Et c'était l'occasion aussi pour nous de rencontrer les femmes de la caravane européenne dont on vous passe les témoignages à chaque émission. Et donc, on vous laisse écouter l'extrait de Radio Caravane.
Marche mondiale des femmes.
Caravane féministe.
Nos carnets de route.
Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes, nous allons vous passer des extraits de la première marche lesbienne dans les Balkans. À Belgrade, en Serbie, ce sont des témoignages, des manifestations de femmes lesbiennes. Elles sont unies dans leur combat pour la visibilité de ce mouvement. Elles sont oppressées, persécutées dans le monde, souvent violent avec elles. C'est une révolution pacifique et joyeuse.
First feeling is that I'm so happy and so proud and so full of energy. I was exhausted for the last like 2 months organizing all of this.
Bon, ma première impression, c'est que je suis très fière et très très contente de tout cela. Pendant les 2 derniers mois, j'ai été épuisée à organiser tout cela.
But now my energy is completely full.
Mais maintenant, mon énergie est revenue.
The first dyke march
Je suis très fière parce que c'est la première marche lesbienne non seulement à Belgrade, mais dans les Balkans. Et je suis contente d'avoir toutes ces personnes qui sont venues du monde entier, non seulement des régions, mais aussi du monde entier.
Ils sont venus pour
nous supporter et nous organisons donc la visibilité des lesbiennes en Serbie. Nous sommes toutes des lesbiennes et nous sommes très fières. Tout d'abord, je suis très contente que la caravane féminine soit venue à notre printemps lesbien.
And I'm also very happy about everything and the way that we organized this.
Je suis contente de la façon dont nous avons organisé tout cela.
Four days with so little
ces quatre jours avec si peu d'argent et si peu de temps. C'est vraiment très bien.
Actually, it's beautiful because we have a women-only march, but it's not happened till now.
Je suis très contente parce que c'est une marche uniquement de femmes et ce n'était pas arrivé jusqu'à maintenant.
Important to be like women show visibility and strength.
C'est important que les femmes montrent la visibilité et la force.
And power.
And
actually,
et la puissance.
That we are fun.
Et que nous amusons.
And this is something that it's most important that we not forget to enjoy in the life.
Et c'est important que nous n'oublions pas d'aimer la vie.
But to not forget the politics.
Mais and sans oublier la politique.
Politics, it's to we not want be in oppressed position, and we don't.
Nous ne voulons pas être dans une position d'opprimé.
And we not want be, you know, part of the violent system.
Et nous ne voulons pas faire partie du système violent.
And the system who are actually torture you.
So et du système qui nous torture.
We show our face and we occupy the street. So
this nous montrons et nous occupons la rue.
Actually, the most beautiful stuff.
Et c'est ce qui est le plus beau.
Trash, trash all the nations. We are the lesbian generation. We will destroy. Fascist nations will beat up. U.S. Daisies, bombs and guns and evolution. We will start a insurrection. We will find a new direction. We will make a revolution. Trash, trash, trash all the nations.
I'm quite happy. I think it was good. It was small.
Je suis heureuse. C'était très important.
It was fun and
c'était amusant.
Many people saw us.
Nous avons été visibles. Les gens nous ont vus.
It worked out.
Ça a bien marché.
For me a bit weird. When I came first, I had really mixed feelings. And
quand je suis arrivée au début, j'avais des sentiments un petit peu partagés.
There was a lot of cops and
il y avait beaucoup de police.
And also, then there was a small group. And
il y avait que des petits groupes.
There was more women arriving.
Ensuite, il y a eu beaucoup de femmes qui sont arrivées.
Communal, like,
quand nous avons commencé, il n'y avait pas de son commun. Nous étions juste en train de marcher. Ensuite, ils ont mis le micro et c'est devenu de mieux en mieux. Et ensuite, ça s'est arrêté. C'était un petit peu abrupt.
But yeah, I think it was good. I'm happy that it went like this and that.
Mais je suis contente que ce soit passé comme ça.
Nobody's hurt. But
personne n'est blessé.
We are
et nous sommes sortis renforcés.
For me, being here is so empowering. Meeting all these strong women who change, literally change the.
Pour moi, c'est très important de rencontrer ces femmes fortes, littéralement des femmes qui changent le monde.
The world, it's great experience and I feel that I can do everything, I can change everything.
C'est très important et je pense que je peux changer tout.
Solidarité avec les femmes et les lesbiennes du monde entier.
Lesbiennes smo sve i zato ponosne smo bre.
Spametin sjopi, gynekija lilegi per apo la ta sinora.
Sestrinstvo cveta, proleće više nikada neće biti isto.
Biljana Platno ne beleše, Biljana ženi ljubeše.
Wir sind Frauen, wir sind viele, wir haben die Schnauze voll.
It's just the beginning.
Marion, tu reviens de 2 mois et demi dans la caravane de la Marche mondiale des femmes. Quel a été votre parcours?
Alors on est parti le 6 mars du Kurdistan, de la partie turque du Kurdistan. Ensuite, on a traversé la Turquie. On est arrivé en Grèce, à Thessalonique. On est passé dans les Balkans, donc on est passé à Bucarest, en Roumanie, à Sofia, en Bulgarie. Ensuite, on est passé en Serbie, au sud de la Serbie, à Pirot. On est passé au Kosovo. On est remonté à Belgrade, en Serbie. On est passé à Tuzla, en Bosnie-Herzégovine. En Croatie, on est allé à Zagreb. Ensuite, la caravane est remontée à Vienne, en Autriche. Et puis là, actuellement, elle est en Suisse.
Quel accueil a eu la caravane dans ces différents pays ?
Eh bien, ça dépend complètement des pays et des personnes qui ont organisé les événements. Mais en fait, on est allé dans des endroits où on était toujours accueillis par des femmes. Ça veut dire qu'on avait déjà des contacts avant. On avait déjà soit pris des contacts, soit il y avait déjà une coordination de la Marche mondiale des femmes. Et donc, les étapes, c'était vraiment très différentes en fonction des pays. Et on a fait beaucoup de marches, évidemment, des manifs, l'occupation de la rue. On a eu des événements publics où on a expliqué un peu le projet de la caravane, où les femmes locales, elles expliquaient aussi leurs actions, leurs projets, leurs combats. On a eu des événements un peu festifs, des concerts, quelques concerts, des projections de films. Bon, voilà, c'était toujours assez, des rencontres. On a eu, en Roumanie, elles ont fait une rencontre avec les femmes roms. Donc voilà, on a eu beaucoup d'événements assez différents.
Voilà. Et est-ce que tu as noté des différences vraiment importantes dans la situation des femmes ? Quelle est ton impression générale ?
Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a toujours les mêmes combats. Enfin, on se rend compte qu'on a beaucoup les mêmes analyses sur l'oppression des femmes dans la vie de tous les jours et sur tous les lieux où on est. Après, évidemment, il y a des pays où c'est plus difficile que d'autres de se battre. Mais en gros, il y a plusieurs choses qu'on a remarquées qui sont pareilles en Europe. C'est par exemple le retour sur le droit à l'avortement. Il y a pas mal de pays quand même où en droit, il y a l'avortement qui existe. Mais en fait, des retours sur ce droit-là, beaucoup moins accès aux hôpitaux, à la santé. Et ça, c'est vraiment global, en fait, dans tous les pays. Après, il y a aussi la montée des fascistes, en fait, des groupes fascistes. Ouais. Et ça, notamment en Serbie et dans les pays
des
Balkans.
Ouais.
Mais en fait, c'est la même chose en France. On se rend compte qu'on a un peu les mêmes analyses. Et l'appauvrissement des femmes aussi, qui va, avec l'austérité qui est mise en place partout en Europe, en fait, les femmes deviennent de plus en plus pauvres, ont moins accès au travail, ont moins accès à la santé, à l'éducation. Et en fait, ça, c'est aussi partout pareil.
C'est peut-être plus visible dans certains pays. On pense, par exemple, qu'en France, il n'y a pas trop de problèmes, mais n'oublions pas quand même qu'une femme meurt sous les coups de son compagnon tous les 3 jours.
Ouais. Voilà. Les violences, c'est assez...
Les violences, sont partout. Ça doit être une expérience... Donc, tu me dis que les problèmes sont en fait quand même très, très semblables dans les pays, mais ça doit être une expérience unique de côtoyer différentes nationalités dans la vie de tous les jours, en traversant aussi grand nombre de pays. Quelle était votre vie dans la caravane ?
Ouais, alors la partie la vie collective dans la caravane, c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est très riche, c'est intense, c'est fatigant. On est des femmes, mais effectivement de beaucoup d'âge. Alors on est plutôt des jeunes à avoir organisé la caravane, mais du coup, pas mal de femmes peuvent nous rejoindre et nous ont rejoints, donc de tous les âges. Donc on vit en communauté. On vient de pays aussi différents, avec des habitudes différentes, mais ça, c'est quand même une partie qui est assez, assez belle. C'est vrai qu'entre les étapes, on n'est pas forcément très nombreuses, mais pendant les étapes, on se retrouve à être, avec les femmes locales qui, du coup, font partie de la caravane pour quelques jours.
D'accord, et le tout en anglais, bien sûr, parce que il y a de nombreuses langues.
Oui, en anglais, en portugais, c'est un mélange. Ça.
Comment est-ce que vous arrivez à garder votre motivation malgré les difficultés, et puis les difficultés matérielles aussi, hein, c'est pas évident.
En fait, quand on arrive dans un lieu qu'on est accueilli par les femmes qui ont préparé notre arrivée et qui nous racontent leur combat, même à des niveaux très, très locaux. Enfin, en fait, on ne se pose plus la question, c'est pourquoi on fait ça. On sait que, voilà, on a besoin de liens entre nous, on a besoin d'espoir aussi, et de rencontrer des femmes fortes et des femmes qui se battent et qui refusent cette situation-là. Du coup, bon, voilà, ça nous porte.
Voilà, et où est la caravane en ce moment ?
Et bien donc en ce moment, elles sont en Suisse. Et donc elles seront à Genève ce week-end et elles arrivent en France à partir de mercredi prochain. Mercredi à Bourg-en-Bresse, jusqu'au 30 mai. Ensuite, elles remontent, enfin elles, je dis elles, mais je aussi. donc on va à Tours. Mm-hmm. Ensuite, les 2 et 3 juin, ensuite on va à Nantes, on a un événement national à Nantes le week-end du 6 et 7 juin. On passera par Notre-Dame-des-Landes, voilà, on va rencontrer les luttes aussi en France. On passe au Mans le 15 juin et à Paris, on sera à Paris du 18 au 23. Ensuite, on remonte vers Lille et on repart en Belgique, en Allemagne, en Pologne. Et on repasse en France en septembre, à Marseille.
D'accord. Donc pour nous, à Bourg, l'événement, c'est le 27 mai avec la marche qui commence à 16h au Stade des Vennes, à 17h à la Tannerie, vers 17h30 à la Préfecture et pour se terminer à 18h, Esplanade de la Comédie. Et si vous voulez tout le détail des 3 jours, parce qu'il y a des concerts, un échange de graines, entre autres, des choses vraiment très, très intéressantes et toutes gratuites, vous consultez la page Facebook MMF Bourg-en-Bresse.
Vous êtes sur RCN 90.7 avec le collectif Debout. L'émission est également diffusée sur Radio Déclic. Vous venez d'entendre le témoignage de la caravane féministe européenne. Donc il y a une marche lesbienne qui a été organisée à Belgrade en mai. À Nancy, le 30 mai dernier, nous avons participé également à la marche des fiertés lesbiennes, gays, bi, trans à Nancy. Une marche festive et revendicative. Et il y en a une à Metz ce week-end, le samedi 13 juin, l'après-midi. Donc rendez-vous à la place Saint-Louis. Le mot d'appel est « Toutes les folles ne sont pas au front ». Et c'est bien sûr un message pour le Front National contre lequel il nous faut encore lutter pour nos droits. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée au thème de la libération sexuelle des femmes et du plaisir féminin. Mais le plaisir féminin, c'est quoi ?
Ce sont de nombreuses sensations éprouvées par les zones érogènes d'une femme jusqu'à l'ultime plaisir, c'est-à-dire l'orgasme. Et selon le dictionnaire.com, ce sont les sensations et émotions agréables de satisfaction et des jouissances sexuelles.
Mais, pourquoi on vous en parle ? La rubrique « Le féminisme, c'est quoi ?»
Nous sommes en marche ! Nous sommes en marche ! Tant que toutes les femmes ne sont pas libres, nous sommes en marche ! Nous sommes en marche !
Alors, dans la pensée féministe, il y a des phrases telles que « Ne me libère pas, je m'en charge ». Où mon corps m'appartient, et il s'agit de montrer l'importance qu'il y a pour le développement des femmes à pouvoir prendre en main leur vie, leur plaisir, que ce soit elles qui soient responsables de leur corps, de ce qui leur arrive, et que ce soit agréable, et donc notamment aussi du plaisir sexuel qui ne dépend pas d'un partenaire ou d'une partenaire, mais qui a à prendre en charge soi-même. Et en ce sens, la masturbation apporte en fait une émancipation pour les femmes et une manière d'être maîtresse de son propre corps. Et donc pour nous, c'est être féministe aussi que de pouvoir parler de ce plaisir féminin et participer à la libération sexuelle que de parler de masturbation. Voilà, d'où notre slogan « Masturbation, autogestion ».
Et contrairement aux hommes qui reconnaissent à 87,1% se toucher, seuls 68,1% des femmes admettent le faire. Est-ce parce que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes ?
L'aveu des hommes qu'ils se touchent, cet aveu n'est fait pas une preuve qu'il y a des différences entre hommes et femmes par rapport à leurs besoins sexuels. Vu que la masturbation est un tabou, particulièrement pour les femmes, il est très probable que les femmes sous-déclarent leur masturbation.
Et quelles sont les raisons ?
Bon, il y a une citation, je pense, qui dit vrai pour beaucoup de femmes. La masturbation est une partie de mon jardin secret. La plupart des femmes ne parlent jamais à propos de la masturbation car ce sujet semble être censuré. Un sujet censuré malgré le fait que la plupart des femmes commencent à se toucher en tant que jeunes filles, si on veut croire un grand nombre de témoignages sur le site secondsex.com. Selon ces témoignages, elles ont leur premier orgasme à l'âge autour de 13 ans, toutes seules.
Et quels sont les avantages de la masturbation ?
La masturbation est particulièrement intéressante pour les jeunes filles et femmes, car elle permet de faire connaissance avec son corps et de mieux savoir comment il marche. Ceci est primordial si on veut avoir des rapports sexuels satisfaisants et libérés. Bien souvent, le partenaire ou la partenaire n'est pas capable de remplir les attentes sexuelles sans aide. Connaître bien son propre corps permet de pouvoir guider son, sa ou ses partenaires et de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas ou ce qui ne nous fait rien.
Et alors, pourquoi la masturbation gêne-t-elle encore aujourd'hui ?
Bon, alors aujourd'hui, pourquoi la masturbation gêne encore ? On pourrait croire qu'on est libéré, mais en final, comme je disais déjà, il y a peu de monde qui en parle. Les raisons. Alors les raisons, peut-être religion, historique, etc. On pourra faire un grand déroulement d'ici, mais bon, on va se dépasser de ça parce que ça remplira une émission tout seul. On a choisi plutôt de vous montrer une petite chanson qui explique pas mal les choses.
Ne te masturbe pas sinon tu deviendras vite muet. Débile, sourd, aveugle et bon pour ne jamais te marier.
Ne réponds pas aux messieurs qui traînent souvent dans les rues. Ils t'emmèneraient chez eux et te mangeraient tout cru.
Ne fais pas de choses sales avec tes petits copains, sinon les esprits du mal te rempliront de venin.
Si tu lis des livres odieux que tu caches sous ton lit, en voyant ça le bon Dieu te rayera du paradis.
Et tu iras en enfer. En veux-tu un aperçu ?
M'ayant dit cela, ma mère me montra son joli cul.
Depuis lors et grâce à elle, j'ai compris que l'interdit n'était rien qu'un simple appel aux délices de la vie.
D'entendre Lobo et Mi, ce sont deux auteurs, compositeurs, guitaristes, comédiens, interprètes de Lorraine, voilà, qui abordent notamment le sujet de la sexualité, qui nous font bien rire. Merci. Alors, pour en revenir au sujet, qu'est-ce que c'est donc la masturbation et comment elle marche ?
Alors, avant de répondre à cette question, j'ai envie de vous faire passer une petite citation de Woody Allen, c'est un réalisateur bien connu. Lui, il dit « Se masturber, c'est faire l'amour à quelqu'un qu'on aime. » La masturbation est une pratique sexuelle qui consiste à provoquer le plaisir sexuel seul sur son corps et par stimulation des parties génitales et autres zones érogènes. Cette pratique s'est faite par le bien de son propre corps ou alors avec des objets extérieurs. Chacune fait selon ses goûts.
Et alors, comment faire concrètement ?
Eh bien, il existe bien des manières de se masturber et il n'y a pas de façon... La meilleure est celle qui nous convient au mieux. Et il existe un excellent livre sur le sujet, c'est le rapport Haidt qui détaille les différentes méthodes et positions avec ou sans objet. Et je vous le recommande car il est très instructif.
Donc, le rapport Haidt. Et une autre question, la masturbation, est-ce que c'est uniquement quand on est seul ?
Bon, effectivement, la masturbation peut être pratiquée seule, mais elle peut aussi être pratiquée en couple ou plus rarement en groupe, par stimulation de ses propres zones ou par stimulation des autres personnes présentes. présente. La masturbation est une autre façon de prendre plaisir. Le plaisir est partagé différemment avec son partenaire. Elle permet de comprendre l'autre et comment lui donner du plaisir. La masturbation est surtout intéressante car elle est très différente des relations que tu peux avoir avec un ou une partenaire.
Et y a-t-il des tabous par rapport à la masturbation féminine ?
Alors, la masturbation féminine est une thématique, ou non, plus généralement dire, la masturbation en soi est une thématique intime pour les hommes comme pour les femmes. Pourtant, pour les hommes, la masturbation est moins un sujet de honte et de pudeur. L'adolescence est la preuve pour ceci. Comme les filles, les garçons commencent à se masturber dès leur jeune âge, il n'est pas rare que les garçons en parlent et il peut même arriver que les garçons se masturbent en petits groupes. Souvent, c'est à l'aide des images et des vidéos pornographiques qu'ils trouvent facilement sur l'Internet.
Bien, justement, la pornographie, parlons-en. Est-ce que ce que la pornographie mainstream véhicule ne risque pas de freiner le plaisir féminin ?
La pornographie mainstream industrielle s'adresse particulièrement aux hommes. Bien souvent, elle met en scène des fantasmes masculins qui donnent souvent une image dégradante de la femme. Les images sont le plus souvent phallocentriques, comme la fellation ou d'autres pratiques, que très rarement on peut trouver d'image d'un homme qui fait plaisir oralement à une femme.
Bah, si on voit très rarement un homme qui fait plaisir à une femme, je trouve qu'on peut aussi poser la question, est-ce qu'il y a des conséquences sur la perception des femmes ?
Dans la pornographie mainstream, les jeunes comprennent la plupart du temps qu'il s'agit d'une vidéo, qu'ils comprennent qu'il s'agit d'une situation imaginée, qui est mise en scène, mais malgré cette abstraction, il est fort probable que des garçons et des hommes qui regardent des images développent consciemment ou inconsciemment des attentes sexuelles peu respectueuses envers les femmes et essaient de les reproduire dans leurs relations futures.
Et en quoi le porno est-il irrespectueux envers les femmes ?
40% du porno mis en ligne représente des violences contre les femmes. 60 millions de visites par mois sur les sites porno mainstream représente des abus, avec par exemple des bannières publicitaires telles que « fille latine agressée » ou « 18 ans et violée ». Ces chiffres que je vous dis viennent du documentaire qui s'appelle « Hot Girls Wanted » et qui parle de l'industrie du porno amateur. Un film qui a suscité la polémique pour les images crues, mais surtout pour le sujet de fond, puisque c'est un documentaire sur des jeunes filles de 18-20 ans qui font la queue à la sortie des lycées pour tourner des films X, qui sont vendus comme un moyen pour elles d'obtenir la liberté. Et ces jeunes filles sont utilisées comme du bétail dans des scènes porno extrêmes pour quelques dollars, avant d'être jetées comme des vieux Kleenex. Et c'est ça aussi la face cachée du porno, les humiliations, les violences et le plus souvent des illusions amères également face à la fortune qu'elle pourrait y gagner. Ça laisse des traumatismes, ce genre d'expérience qui, eux, mettent beaucoup de temps à disparaître. Un autre aspect qui est violent, c'est la manière dont les femmes sont racisées, classifiées en tant qu'asiatiques, latino, étiquetées en tant que salopes, etc., avec un fond d'oppression raciste aussi.
Alors, si on entend parler humiliation, violence envers les femmes, les actrices n'ont-elles jamais du plaisir ?
Alors, si vous pensez que les actrices que vous voyez dans les films ont du plaisir, c'est que ces actrices sont de bonnes actrices. La plupart du temps, les réalisateurs ne s'intéressent qu'aux scènes qu'ils considèrent comme obligatoires. Les producteurs s'intéressent surtout à la rentabilité des films qu'ils produisent, sans considération pour les conditions de travail de leurs employés et de leur état de santé psychologique et physique. Et un certain nombre de spectateurs sont convaincus qu'une actrice porno est une fille facile, une femme avec laquelle on peut tout se permettre. Et les stars de films X en plus de vivre des conditions de travail souvent difficiles qui les mettent en danger, notamment par rapport au sida, elles doivent subir la stigmatisation et être considérées comme des filles de mauvaise vie. Alors, par exemple, Brigitte Lahaie, qui est une ancienne actrice X, dit « Le porno est tourné vers l'homme, même aujourd'hui. Dans les films, on met toujours en scène des femmes disponibles qui aiment le sexe. » Donc ça veut dire que ce qu'on ne voit pas dans les films, c'est ce qui pourrait exciter ou faire plaisir aux femmes. les préliminaires, la stimulation du clitoris, la prise en compte du consentement, du besoin d'être en confiance et d'être lubrifié pour que les sensations soient agréables.
Cette mise en scène, des, on peut dire tout simplement des rapports pas très respectés, il n'y a pas de respect mutuel. Est-ce qu'il y a des conséquences pour les relations réelles entre hommes et femmes ?
Le danger de présenter la violence de femmes comme plaisir des hommes est que ces violences se retrouvent dans les demandes des hommes et participent à la normalisation des pratiques qui ne font pas plaisir aux femmes, voire qui leur font mal. Plus ces pratiques sont hardes et plus les actrices seront payées.
Alors, comment c'est perçu par les spectateurs et spectatrices, Maya ?
Alors, il n'y a pas forcément ce recul et cette considération, mais par exemple, Philippe Vandel dit « Lorsque je présentais le journal du Hard, je trouvais que les scénarios les limitaient à des femmes-objets, des poupées, qui faisaient tout ce que l'homme leur disait de faire. Ça me déplaisait car ça voulait dire qu'une fille ne dit jamais non. Même si j'ai présenté mes émissions avec distance et ironie, cette représentation de la femme dans ce cinéma m'a toujours choquée. » Voilà, c'est une représentation, c'est une mise en scène, c'est un montage hein, d'un film. Et les codes de la pornographie ont envahi notre quotidien. Des femmes se soumettent aux clichés du porno, parfois à la demande des hommes, et ça peut les éloigner de leur plaisir propre. La vision avilissante de l'amour et des femmes qui est propagée par cette pornographie mainstream industrielle perpétue des stéréotypes sexuels agressifs, une pensée machiste des relations de pouvoir. Et ça crée un climat où les femmes peuvent développer l'angoisse d'être utilisées ou humiliées lors de rapports sexuels. Et il est primordial que la libération sexuelle passe par une sexualité où le plaisir des femmes a sa place. Et voilà, nous, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Alors, voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas de femmes frigides, il n'y a que des mauvaises langues. Et qui d'autre que Colette Renard pour nous parler du plaisir féminin avec Les Nuits d'une Demoiselle.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir. Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Et cette chanson date de 1963. Vous êtes sur RCN avec, et Radio Déclic avec le collectif Debout sur le plaisir féminin. Et justement, est-ce qu'il existe une autre pornographie ?
Alors oui, une autre pornographie est possible. Il émerge une pornographie de couple pour les femmes, moins sexiste, plus esthétisée et qui s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et il existe la pornographie féministe, et oui, moins stéréotypée et qui met en scène le respect mutuel et qui montre des représentations des fantasmes féminins. C'est ce qu'on appelle le féminisme pro-sexe. Le féminisme pro-sexe s'oppose au contrôle patriarcal et à la masculinisation de l'imagerie pornographique et lui oppose une esthétique qui explore les aspects de la sexualité féminine. Par exemple, tous les ans ont lieu les Feminist Porn Awards, dont voici les critères. Les films doivent montrer le vrai plaisir féminin. Ils doivent être réalisés ou produits par une femme. Ils doivent étendre le champ d'expression sexuelle des femmes par rapport à un porno traditionnel. Et évidemment, ils doivent être excitants.
Et comment découvrir son propre corps ?
Oui, c'est ça. Alors, comment découvrir son propre corps ? C'est une question un peu difficile, je pense. C'est pas très évident, surtout pour des jeunes filles, des jeunes femmes, parce que la société est pleine de pudeur par rapport à ce thème-là. Alors du coup, on a découvert quelque chose dans les années 1968, qui sont les synonymes de la libération des femmes. Dans cette époque, il y avait des stages dites de vagin. Alors ces stages de vagin ont été organisés dans le but de découvrir son propre corps. À l'aide d'un petit miroir, les femmes ont regardé souvent pour la première fois leur propre vagin. Bon, si je pense aujourd'hui à des stages comme ça, ça me semble très bizarre d'y participer, mais l'idée est quand même intéressante. Et dans le même thème, on a trouvé un texte, ce sont les monologues des vagins. Et dans les monologues des vagins, il y a un texte qui s'appelle « L'atelier du vagin ». Et du coup, Alison, elle va nous lire cette l'atelier du vagin qui parle exactement d'un stage que je viens raconter comme dans les années 68.
Et c'est la rubrique témoignage.
C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Alors ce que dit en introduction de ce texte Eve Ensler, hein, qui est l'auteur des monologues du vagin. Pendant les 2 années qu'ont duré mes interviews, j'ai rencontré 9 femmes qui avaient eu leur premier orgasme juste avant ou juste après la quarantaine. Toutes les 9 avaient eu ce premier orgasme grâce à la même femme, Betty Dodson. Elles avaient toutes participé à des époques différentes, à l'un des groupes que cette femme extraordinaire organise depuis 25 ans pour aider les femmes à localiser leur vagin, à le découvrir, à l'aimer et à lui donner du plaisir. Ce monologue est fondé sur l'histoire d'une de ces femmes qui s'est inscrite à l'atelier du vagin.
À l'atelier, on nous a demandé de regarder notre vagin à l'aide d'un miroir de poche. Après un examen attentif, nous devions faire verbalement un compte-rendu à tout le groupe de ce que nous avions vu. Je dois avouer que jusqu'à ce jour, tout ce que je savais sur mon vagin était fondé sur les on-dit ou sur l'invention. Je ne l'avais jamais vu. Il ne m'était jamais venu à l'idée de le regarder. Mon vagin n'avait d'existence pour moi que sur un plan abstrait. Je trouvais ça réducteur et choquant de le regarder allongé comme nous l'étions sur nos matelas bleus, nos miroirs à la main. Ça me faisait penser à ce que les premiers astronomes avaient dû ressentir avec leurs télescopes rudimentaires. Au début, mon vagin, je l'ai trouvé plutôt inquiétant. Un peu comme quand vous voyez pour la première fois un poisson ouvert et que vous découvrez à l'intérieur tout cet univers sanguin et complexe, juste là, sous la peau. C'était tellement rouge, tellement frais, tellement cru. Ce qui m'a le plus surprise, c'était toutes ces couches successives. Une couche sur une autre couche, ouvrant sur une autre couche. Mon vagin m'a stupéfiée. Quand ça a été mon tour, je n'ai pas pu parler. J'étais sans voix. Je venais de m'émerveiller à ce que cette femme qui dirigeait l'atelier appelait l'émerveillement vaginal. Je n'avais qu'une envie, rester là sur mon tapis, les jambes écartées, à contempler mon vagin jusqu'à la fin des temps. Puis la femme qui animait l'atelier a demandé combien d'entre nous dans le groupe avaient déjà eu des orgasmes. 2 femmes ont levé la main timidement. Moi, je n'ai pas levé la main. mais j'avais déjà eu des orgasmes. Je n'ai pas levé la main parce que c'était des orgasmes accidentels. Ils m'arrivaient à l'improviste dans mes rêves et je m'éveillais épanouie. Dans l'eau souvent, dans mon bain la plupart du temps. Une fois dans la piscine à Saint-Tropez, à cheval, à vélo, sur le tapis de marche à la gym. Je n'ai pas levé la main parce que, même si j'avais eu des orgasmes, je ne savais pas comment les provoquer. Je pensais que c'était une chose miraculeuse, magique. Je ne voulais pas intervenir. Je trouvais que mon mêlée aurait eu un côté malsain, factice, fabriqué. De l'orgasme à la demande. Plus de surprise, plus de magie. Seulement, le problème, c'est que depuis 2 ans, il n'y avait plus de surprise. Et puis est arrivé le moment que j'attendais et redoutais à la fois. La femme qui animait l'atelier nous a demandé de ressortir nos miroirs de poche et de voir si nous pouvions repérer notre clitoris. On était toutes là, sur le dos, sur nos tapis bleus, à essayer de trouver nos marques, nos repères, notre logique. Et je ne sais pas pourquoi je me suis mise à pleurer. Peut-être était-ce la simple gêne. Cette recherche du clitoris dans cet atelier insensé sur ces matelas bleus le rendait plus réel, beaucoup trop réel. Je sentais venir la panique et simultanément l'angoisse et la prise de conscience que si je m'étais empêchée de trouver mon clitoris, c'était parce qu'en fait, j'avais toujours été terrifiée à l'idée que je n'en avais pas, terrifiée à l'idée d'être une de ces bonnes femmes viscéralement impuissantes, une de ces femmes frigides, mortes, closes, sèches, avec un goût de vieil abricot. La femme qui dirigeait l'atelier s'est aperçue de mon agitation désespérée. Je suis haletante. Elle s'est approchée de moi et je lui ai dit « J'ai perdu mon clitoris, il a glissé. » Elle a éclaté de rire. Doucement, elle m'a caressé le front. Elle m'a dit qu'un clitoris, ça ne se perdait pas comme ça. Qu'il était moi, qu'il était mon essence même. Qu'il était tous à la fois la sonnette de ma maison et ma maison elle-même. Que je n'avais pas à le retrouver, dit-elle. Que j'avais à l'être. Être lui. Être mon clitoris. Être mon clitoris étendu. J'ai fermé les yeux, j'ai posé mon miroir et je me suis regardée flotter au-dessus de moi. J'ai regardé comment lentement je m'approchais de moi et comment je réentrais en moi. Je suis revenue dans mes propres muscles, dans mon propre sang, dans mes propres cellules et puis je me suis glissée dans mon propre vagin. Tout à coup, c'était devenu très facile. Ça allait tout seul. C'était tout chaud, ça palpitait, c'était jeune, c'était vivant, ça n'attendait que moi. Et là, les yeux toujours clos, sans regarder, j'ai posé le doigt sur ce qui, soudain, était devenu moi. Au début, c'était un peu frémissant et c'est ce qui m'a poussé à continuer. Puis le frémissement s'est transformé en tremblement, puis le tremblement en éruption et les différentes couches se sont divisées et divisées encore. J'ai senti la connexion, l'irrésistible connexion s'opérer, tandis que je restais là, étendue, agitée de spasmes sur mon petit matelas bleu.
Alors c'est un extrait donc, de ce monologue qui s'appelle L'atelier du vagin. Vous retrouvez beaucoup de témoignages de ce type dans le texte d'Evansler, également dans les témoignages de chat. Vous pouvez trouver les liens sur notre site web www.collectif-debout.org. Avoir les témoignages des autres femmes, c'est aussi un moyen de pouvoir se réapproprier son propre corps et d'avoir une analyse de ce qui se passe et de voir que parfois on n'est pas seul aussi dans nos difficultés.
Bon, alors si on parle des plaisirs féminins, ce qu'on fait aujourd'hui pendant notre émission, on avait aussi envie de parler sur quelque chose qui a beaucoup de clichés aussi qui circulent. Les plaisirs féminins entre femmes, ça veut dire les plaisirs lesbiens. C'est quoi ?
Alors, il y a beaucoup de clichés justement sur le plaisir entre femmes. Par exemple, sur l'image d'une femme qui ne pourrait jouir que par le phallus d'un homme. Et souvent, les gens ne comprennent même pas comment une femme peut faire l'amour avec une femme. Mais pourtant, le plaisir féminin vient de frottement, de stimulation du clitoris et pas forcément du vagin. Et la pénétration elle-même ne nécessite pas de phallus. Et elle peut même être plus agréable si elle est faite par des doigts ou par des accessoires.
Et être lesbienne, est-ce uniquement une question de pratique sexuelle ?
Non, le lesbianisme, voilà, c'est aussi plus que ça. On a interviewé à ce propos ce week-end, lors du rendez-vous de la Marche mondiale des femmes, Clara et Alexandra de la Caravane féministe européenne. On vous laisse écouter.
Pour moi, la question du lesbianisme, c'est pas tant une question de sexualité que de mode de vie. C'est-à-dire que finalement, la sexualité, ça va être relatif à comment on baise, comment on fait l'amour, etc., etc. Mais en fait, bon, bien sûr, c'est pas la même chose dans un couple lesbien ou hétérosexuel, mais en fait, c'est pas vraiment ça la question. La question, c'est comment est-ce qu'on, quelle place on a dans la société, qu'est-ce que ça veut dire deux femmes qui s'aiment et qui vivent en couple ou pas, parce qu'il y a aussi plein de façons de vivre des relations amoureuses. Donc moi, la lesbianisme, je le pose pas comme une question sexuelle.
C'est une organisation sociale, c'est ça.
Voilà. Et les féministes doivent défendre les droits des lesbiennes à vivre leur vie comme elles l'entendent, leur sexualité comme leur mode de vie, partout dans le monde. Donc c'est aussi dans ce cadre-là que, quand on est venu dans les Balkans pour préparer un peu la caravane et dire, bah, qu'est-ce qu'on va faire comme événement, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez qu'on travaille ensemble, il y a eu des femmes qui ont proposé de faire une marche lesbienne à Belgrade. Ça n'avait jamais eu lieu, je pense qu'elles se sont servies du fait qu'il y avait une caravane féministe européenne, du coup, pour avoir un peu de force de solidarité internationale et un peu plus de soutien, quoi. Et elles ont, et on a ensemble, défendu le droit des lesbiennes à vivre, à être visibles dans l'espace public, etc., quoi. Mais c'est un événement parmi un million d'autres qui concerne la question des femmes, de notre autonomie, de notre position dans le monde, de la division du travail, etc.
Dans la marche mondiale des femmes, on questionne tout le système. Le système patriarcal impose la hétéronormativité. Mais c'est tout ce qui sort de la norme patriarcale, que donc c'est l'imposition de la famille, l'imposition de la maternité, l'imposition de la hétéronormativité. Donc tout ce qui sort de cela, c'est vu comme dangereux. Et donc nous sommes super dangereux. On sort de tout. Moi, je n'ai pas de fille, des enfants, je ne veux pas avoir des enfants, je ne suis pas mariée, je ne veux pas être mariée. Donc, ce sont des choses qui sont très subversives dans un sens. Et on dit que ça, oui, c'est possible. Donc, c'est ça, c'est possible de vivre dehors de cette norme, de certaines impositions. Donc.
Aime Julia, Sophie aime Sophia, Laurent aime Vincent et des fois il aime Laura. Tout ça c'est de l'amour, qu'on se l'avoue ou pas. Tout ça c'est de l'amour, qu'on se l'avoue ou pas. Il y aime Lola, mais elle ne le dit pas. Pierre aime Nicolas, mais on ne le sait pas. On accepte l'idée tant que c'est pas chez soi. On accepte l'idée tant que c'est pas chez soi. Nathalie est mariée depuis longtemps déjà. Le seul amour possible, c'est les filles avec des gars. Pourtant, elle est partie un jour vivre avec Nadia. Pourtant elle est partie un jour vivre avec Nadia. Agnès a mis du temps à dire à ses parents qu'elle préférait Sylvie à Julien ou à Dimitri. Ils ont dit tu crois pas qu'on a déjà assez de soucis. Ils ont dit tu crois pas qu'on a déjà assez de soucis. Richard a dû partir de là où il est né. Il a choisi l'exil plutôt que de vivre caché. Quel dilemme imbécile, rester chez soi ou être gay. Quel dilemme imbécile, rester chez soi ou être gay. Julie aime Julia, Sophie aime Sophia, Laurent aime Vincent et des fois il aime Laura. Tout ça c'est de l'amour qu'on se l'avoue ou pas. Tout ça c'est de l'amour qu'on se l'avoue ou pas.
L'amour, ça se conjugue à tous les temps, à tous les tons. De couleur ou de sexe, il ne devrait être question.
L'amour, ça se conjugue à tous les âges et sans
passion. L'amour, ça se conjugue à tous les temps, à tous les tons. De couleur ou de sexe, il ne devrait être question.
L'amour, ça se conjugue à tous les âges et sans raison. De couleur ou de sexe, il ne devrait être question. L'amour, ça se conjugue à tous les temps, à tous les tons. De couleur ou de sexe, il ne devrait être question. L'amour, ça se conjugue à tous les âges et sans raison. De couleur ou de sexe, il ne devrait être question. L'amour, ça se conjugue à tous les temps, à tous les tons. De couleur ou de sexe, il ne devrait être question. L'amour, ça se conjugue à tous les âges et sans raison. De couleur ou de sexe, il ne devrait être question.
Vous venez d'entendre les choraleuses qui chantent Julie aime Julia. Les choraleuses, eh bien, c'est la chorale du collectif Midi-Pyrénées des droits des femmes que nous avons rencontré ce week-end à l'Agora féministe de la Marche mondiale des femmes. Vous êtes sur RCN et sur Radio Déclic avec le collectif féministe Debout. On vous parle de la libération sexuelle des femmes et du plaisir féminin. Et on ne peut pas en parler sans également parler des craintes qui peuvent empêcher une femme de prendre du plaisir.
Bon, alors les craintes, je pense chaque femme connaît la grande crainte. Merde, mes règles sont en retard, qu'est-ce que je fais? Ou voilà, est-ce qu'il y a des risques parce que c'est pas sûr si ça va déborder ou voilà, la comporte est déchirée ou plein de choses comme ça. Alors du coup, la contraception et aussi la protection pendant les rapports sexuels, c'est une question très importante. Il est probable qu'une femme puisse uniquement se libérer sexuellement si elle a trouvé une réponse satisfaisante à la question « comment se protéger pendant des rapports sexuels ?» Car en faisant l'amour, voilà, une femme, elle prend toujours des risques. Comme j'ai déjà dit, voilà, soit tomber enceinte ou attraper des maladies sexuelles transmissibles. Ceci est la raison pour laquelle il est important de bien choisir sa contraception et sa protection.
Et quelle est la meilleure contraception?
Alors, la meilleure contraception, ça n'existe pas. Voilà, ça dépend de la femme. Si j'ai dit voilà, que la meilleure contraception, ça n'existe pas, ça veut dire qu'on peut bien regarder les statistiques, qu'est-ce qui est le plus sûr, mais ça ne veut rien dire des cas à cas. Je vais prendre un exemple. Voilà. Si je suis quelqu'un qui oublie facilement la prise des médicaments, bah, la pilule, je pense, elle n'est pour moi pas une contraception sûre. Voilà, il faut faire attention à ça. Ça veut dire qu'il faut regarder, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Voilà, il faut prendre en compte quelle est ma situation, combien de partenaires sont concernés, change mes partenaires régulièrement, ai-je confiance dans ma ou peut-être mes partenaires, est-ce que j'ai voilà l'oubli des médicaments, et tout ça il faut prendre en compte. Et s'il ne s'agit pas d'un jugement moral, ces questions ciblent uniquement vraiment les besoins de la femme dans sa situation, quelle contraception et quelle protection est la meilleure.
Et comment faire pour contrer les mythes sur la contraception? Est-ce qu'il en existe?
Alors, oui, on peut pas présenter ici toutes les contraceptions parce qu'on n'a pas de temps. Mais je trouve qu'il y a des trucs vraiment importants à répéter et à répéter. Premier mythe. Alors, les stérilés, ils peuvent être posés aussi à des femmes qui n'ont pas encore eu enfant. Alors les mythes, c'est voilà, on peut mettre que le stérilet si on a déjà enfanté. Ça, c'est faux. Il y a des stérilets avec plusieurs tailles et n'importe quelle femme, à des exceptions très très rares, n'importe quelle femme peut se faire poser un stérilet. Alors, deuxième chose que je trouve très important, la pilule n'est pas l'unique moyen de contraception parce que souvent, si on va chez les médecins, gynécologues, etc., bah, ils n'ont pas de temps pour bien expliquer qu'est-ce qu'il y a et tout ça parce qu'ils planifiaient tous les 15 minutes un rendez-vous et ça prend trop de temps pour expliquer. Alors du coup, souvent, ils écrivent une ordonnance pour la pilule. Mais il y a plein d'autres choses. Et voilà, alors les autres contraceptions qu'il y a, Si je dis contraception, ça veut dire c'est pour les risques, voilà, éviter les risques de tomber enceinte, mais sont pas des ou à condition, voilà, sont pas tous, pas tous les contraceptions protègent aussi contre les maladies sexuelles transmissibles. Alors, les contraceptions sont le stérilet, les spermicides, l'implant, les préservatifs féminins, le patch, les préservatifs masculins, l'anneau vaginal, le cap cervical, le diaphragme, les progestatifs injectables, les méthodes naturelles, la pilule du lendemain. Ah, la pilule du lendemain, là, j'ai aussi encore envie de souligner, la pilule du lendemain ne rend pas stérile. Ça, c'est aussi une bêtise qui circule depuis très longtemps dans notre société. Aujourd'hui, la pilule du lendemain n'est plus superdosée. À mes connaissances, elle a environ les mêmes effets que trois pilules ordinaires qui sont prises à la fois.
Mais alors, comment choisir ?
Alors, comment choisir ? Je pense, avant, le truc le plus important, avant s'adresser à un professionnel médical, comme j'ai déjà expliqué, ils n'ont jamais le temps avec leurs 15 minutes et tout ça, il est conseillé s'informer d'abord sur les contraceptions et les protections avant de consulter un professionnel médical. Alors, ici, deux, trois trucs d'information, tout simplement. Il y a un site internet qui est très, très bien fait. Elle s'appelle choisirsacontraception.com. Vous trouvez facilement sur l'internet, mais aussi sur notre site internet à nous. On relie plein d'informations. C'est collectif-debout.org.
Et alors, sur les maladies sexuellement transmissibles, quelles sont les protections ?
Alors, les protections, je pense, la plus connue de protection, c'est les préservatifs masculins. Mais il faut savoir aussi que le préservatif masculin n'est pas la seule protection contre les maladies sexuelles transmissibles. Il y a également les préservatifs féminins. Alors, la différence entre les deux préservatifs, les préservatifs féminins, il est beaucoup plus grand parce qu'il s'adapte, contrairement au masculin, au sexe de la femme. Et il apporte d'autres avantages. Le préservatif féminin, il peut mettre en place avant le rapport. Et il peut même plusieurs rapports de la même soirée, c'est pas obligé de chaque fois changer. Et si le rapport est avec un homme, le rapport peut continuer même si l'homme a déjà éjaculé. Et ça, il faut aussi, très important, il faut savoir, c'est pas le cas avec un préservatif masculin. Si après éjaculation, les rapports durent, il y a un risque augmenté que le préservatif déchire.
Et un autre avantage du préservatif féminin, c'est aussi qui peut être utilisé pour les rapports lesbiens. Voilà, pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles dans les rapports lesbiens, il y a également ce qu'on appelle les digues dentaires, c'est-à-dire des carrés de latex. Il y a également des gants en latex. Et vous pouvez aussi découper des préservatifs masculins. Une autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est l'importance de la lubrification. Pour éviter que le préservatif se déchire, mais aussi pour diminuer le risque qu'il y ait des micro-coupures, ce qui pourrait augmenter les possibilités de transmission de MST.
Et dernière chose qui est très très important aussi de savoir, à qui c'est adressé comme professionnel médical. Alors bien sûr, tout le monde sait, les gynécologues. Malheureusement, les gynécologues, il y a de moins en moins, il est de plus en plus difficile d'obtenir un rendez-vous. Alors, vous pouvez également vous adresser à votre médecin traitant si c'est une personne de confiance ou à votre sage-femme.
Alors, pour conclure cette émission sur l'émancipation sexuelle féminine, je pense qu'on peut dire que le plaisir féminin est subversif, qu'il est facilement accessible via la masturbation notamment, qu'il est bon à la santé et au développement personnel, et donc il n'y a que des bonnes raisons de le célébrer et de le mettre en pratique. Et sur ce, eh ben on vous dit à la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, débrisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous.
on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, levons-nous.